Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes chers enfants, c'est par vous que je vais commencer mon sermon aujourd'hui. Nous fêtons la solennité de Notre-Dame du Rosaire. La fête est le 7 octobre, mais les papes ont demandé de célébrer cette fête le premier dimanche du mois d'octobre. Et nous commençons le mois d'octobre consacré à la Sainte Vierge. Alors, savez-vous, mes chers enfants, quand cette fête fut instituée? Elle le fut par Saint Pie V, le pape de la messe, après la victoire de Lépante. Ce fut une extraordinaire victoire contre les Turcs musulmans qui attaquait la chrétienté. Ce fut une campagne, une bataille navale. Il y avait à peu près 400 bâtiments de chaque côté, ce qui faisait 800 bâtiments, vous imaginez, mes chers enfants. Les Turcs étaient très puissants, et puis surtout, comme la bataille commença le matin, ils venaient de l'Est, donc ils avaient le soleil derrière eux, et puis les chrétiens qui venaient de l'Ouest avaient le soleil devant eux. Ils étaient éblouis par le soleil. En plus, le vent était favorable aux musulmans. Le vent venait d'Est également et poussait les bateaux, donnait du vent aux bateaux des musulmans. Tandis que les chrétiens avaient le vent contre eux et ne pouvaient pas manœuvrer, ne pouvaient pas avancer. Là, tout d'un coup, le vent tourne et la fumée des canons qui était envoyée, qui était renvoyée sur la figure des chrétiens, est à ce moment-là renvoyée vers les païens, vers les musulmans. Le soleil est caché par des nuages et ce fut un affrontement gigantesque, à tel point que le chef des Turcs musulmans, voyant le chef des chrétiens, le navire amiral, fonça dessus, les deux bateaux se heurtèrent, les proues, vous savez ce que c'est que la proue, mes enfants, c'est le devant du bateau avec ses belles figures qui impressionnent tant. Les proues se heurtèrent, elles se détachèrent du navire, elles tombèrent dans la mer, ce fut un combat gigantesque, finalement le chef des musulmans fut mis à mort, décapité. On mit sa tête au bout d'une pique, ce fut la débandade chez les musulmans, une victoire extraordinaire. Saint Pie V, alors comment cette victoire a-t-elle pu être possible? Parce que Saint Pie V, le grand pape, avait demandé des prières dans toute la chrétienté pour protéger la foi contre les attaques des mahométans. Et le jour de la bataille était un jour où, consacré à la prière du rosaire, et dans toute la chrétienté, on priait dans toutes les églises pendant que les soldats se battaient. Les soldats s'étaient tous confessés, avaient communié, ils avaient reçu l'indulgence plénière, et tout le monde reconnut que cette extraordinaire victoire était due à la Très Sainte Vierge. Au moment où la victoire est obtenue, Saint Pie V est à Rome, au palais du Latran ou du Vatican, je ne sais plus. Il est à Rome, dans son bureau, et il a une vision. Il se met à la fenêtre, évidemment, vous vous en doutez, depuis Rome, à la fenêtre, on ne risque pas de voir les pentes qui est à l'entrée du golfe de Corinthe, en Grèce. Il se met à la fenêtre, il voit la victoire, et il dit aux cardinaux qui travaillaient avec lui, « Rendons grâce à Dieu, nos armées ont eu la victoire. » Il instaura à ce moment-là la fête du rosaire. Mais ce n'était pas la première victoire du rosaire. Le rosaire a été inspiré par la Très Sainte Vierge à Saint-Dominique. On priait déjà le chapelet, d'une certaine manière, on priait le Notre Père, « Je vous salue Marie », mais c'est Saint-Dominique qui, sous l'inspiration de la Sainte Vierge, l'a mis en forme avec les trois couronnes de cinq mystères chacune, ce qui fait 15 mystères. La première grande victoire militaire du Rosaire fut la bataille de Muret, que je me remémore, 1213. Montfort, le comte de Montfort, fit la guerre contre 100 000 hérétiques, les Albigeois, qui étaient des hérétiques, qui étaient soutenus par le roi d'Aragon en Espagne, qui était 100 000. Et Montfort n'avait que 12 ou 13 000 hommes à opposer. Et il fait venir Saint-Dominique. Saint-Dominique prêche le rosaire et promet la victoire. À ce moment-là, au moment où tout semblait perdu, Montfort attaque les hérétiques et il n'en fait qu'une bouchée. Cette victoire a été due également à la mère de Saint-Louis, Blanche de Castille, qui avait pris à cœur de protéger la foi chrétienne contre les hérétiques. Il y eut ensuite de nombreuses autres victoires du Rosaire. On parle de la bataille de Vienne avec Jean III Sobieski en 1683, toujours contre les Turcs, et puis en 1716 en Hongrie. Et puis l'année suivante, la victoire de Belgrade. Et puis en 1628, la victoire de La Rochelle avec les musulmans, que dis-je, les protestants. Les protestants, mes chers enfants, sont des gens qui trient dans l'évangile. Ils gardent ce qui leur plaît, ils jettent ce qui ne leur plaît pas, ils font une religion à leur idée. Inutile de vous dire que ce n'est plus tellement une religion. Enfin, comme ils continuent à croire quand même en Jésus-Christ, on les appelle des chrétiens, mais ce sont des chrétiens qui ont vraiment vidé le christianisme de sa substance. Et les protestants s'étaient installés en France à cause de Luther, Calvin, et ils faisaient beaucoup de tort, parce que la France avait été, pas seulement la France, toute la chrétienté, avait été terriblement affaibli par l'humanisme. On s'était mis à se complaire dans un art pas toujours très moral, et puis surtout très païen. Cela avait beaucoup affaibli la chrétienté, et le protestantisme était né de cela. Les protestants avaient décidé de transformer la France en un royaume protestant, en tout cas de bien s'y installer, et ils avaient conquis des places qu'ils avaient transformées en places fortes, et notamment La Rochelle. La Rochelle était aidée, puisque c'est un port de mer, vous le savez, donc elle était aidée par les Anglais qui apportaient par la mer des subsides, des secours, des armes et même de la nourriture. Les Anglais étaient protestants depuis bien plus longtemps. Richelieu décide de faire tomber la place forte de La Rochelle, qui était une offense au roi et à la religion. Il se rend bien compte que la bataille va être très difficile. Alors il écrit à la reine-mère et lui demande de faire prier le chapelet. Alors la reine-mère convoque les principaux évêques du royaume, qui tous donnent l'ordre de réciter le chapelet. Et fort de cela, Richelieu attaque les protestants. Ce fut une telle victoire dont il fut tellement conscient que, au moment d'entrer dans la ville pour en prendre possession, il demanda que les dominicains, l'ordre qui est chargé dans l'église de promouvoir la dévotion au chapelet et au rosaire, il demanda que les dominicains entrent les premiers dans la ville, avant lui, Richelieu, le représentant du roi, pour montrer que cette ville appartenait à la Sainte Vierge. Il y eut beaucoup d'autres victoires du Rosaire. Je pense que si nous voulions en faire la liste, nous aurions beaucoup de mal. Ces derniers temps, l'Autriche fut libérée du joug communiste par le chapelet, le Rosaire récité par les femmes dans les rues de Vienne. Le Chili également fut délivré du communisme par le rosaire. La France fut délivrée non pas par le rosaire, mais par la Sainte Vierge, juste après la Seconde Guerre mondiale. les apparitions de l'île Bouchard. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Et puis vous avez enfin les apparitions de Fatima pour défendre le monde contre les erreurs de la Russie, les erreurs du communisme. La Sainte Vierge est tout à fait consciente. Elle nous avertit que le communisme va répandre ses erreurs dans le monde entier et faire un mal considérable. Alors elle demande, une fois de plus, la récitation du chapelet. Qu'est-ce que le chapelet? Le chapelet est l'instrument du bon Dieu, déjà, par lequel il forme nos âmes. Vous vous rendez bien compte, mes chers enfants, que de telles victoires ne se font pas n'importe comment. De tels miracles ne se font pas sans la fidélité des hommes aux inspirations de la Sainte Vierge. Je vous ai dit que les soldats de les Pentes s'étaient tous confessés et avaient communié. S'ils n'avaient pas été en état de grâce, il est certain que la Sainte Vierge ne les aurait pas protégés. Montfort fit venir Saint Dominique pour prêcher le chapelet au milieu de l'armée. Jean-III Sobieski était un grand chrétien. Bref, tous ceux qui luttent et obtiennent la victoire ne l'obtiennent que parce que la Sainte Vierge les bénit, et elle ne les bénit que parce qu'ils sont des serviteurs fidèles. Alors, je pourrais dire que le chapelet, déjà, est une charrue qui laboure nos âmes, qui déracine de nos âmes le péché et les vices qui sont la racine du péché. Notre âme est une terre dans laquelle le bon Dieu sème. Mais il ne peut pas semer s'il n'y a pas eu d'abord le labour. Eh bien, le chapelet va labourer nos âmes. Et puis, le chapelet est ensuite, chapelet ou rosaire, le rosaire c'est les trois chapelets. Le rosaire est ensuite la graine. Il n'est pas seulement la charrue, mais il est la graine. Et nos cœurs sont la terre dans laquelle Dieu sème. Et vous avez une parabole de l'Évangile, le semeur sorti pour semer sa semence. Et une partie de la semence tombe sur la pierre. Inutile de vous dire qu'elle s'est desséchée, elle n'a pas pu pousser. Une partie de la semence tombe sur le chemin, les oiseaux l'ont emportée. Une autre dans les épines. Ah, ça c'est plus sérieux. Il y a de la terre, mais les épines ont poussé et puis ont étouffé la semence. Ce qui fait qu'il ne reste plus rien. Et puis, enfin, une partie de la semence tombe dans la bonne terre qui a été préparée, qui a été labourée, justement par le chapelet. Et le chapelet, troisièmement, est une arme offensive contre les ennemis de Dieu. Mais là, il faut bien comprendre. Vous voyez, les choses vont mal. Très mal même en ce moment dans l'Église. Et nous pourrions être tentés, avec toutes les histoires que je vous ai racontées, de dire il faut prendre les armes. Certainement, à certaines époques, il faut prendre les armes. Malheureusement, les chrétiens qui auraient dû prendre les armes ne l'ont pas fait. Les papes non seulement ne les ont pas encouragés, mais les ont même découragés. C'est terrible, il faut que vous sachiez ça, mes chers enfants. Par exemple, le pape Pie XI, non seulement a refusé de soutenir les Christeros, c'est-à-dire les croisés, qui se battaient tous avec le chapelet autour du cou, au Mexique, il a refusé de les soutenir, il les a quasiment condamnés, et puis il les a fait désarmer, et tous les Christeros ont été assassinés les uns après les autres. Ça a duré. Même encore 10 ans après, 20 ans après, il y avait encore des assassinats. Les derniers qui s'étaient réfugiés dans les montagnes. Alors, le bon Dieu a décidé que puisque les hommes ne voulaient pas se battre comme il le leur demandait, alors ils se battraient par d'autres moyens, des moyens spirituels, et que tout le monde verrait que la victoire est due au chapelet et à de pauvres gens sans moyens, sans défense, qui ne s'appuieront que sur la Sainte Vierge. Et c'est ce que la Sainte Vierge demande à Fatima. Alors, que nous montre, et les adultes vont être intéressés, je ne sais pas si vous savez que le président de Civitas a fait un appel au Front National pour faire une union de toutes les droites. Je ne sais pas si c'est la 10e, la 20e ou la 100e, hein, depuis le temps qu'on prêche l'union de la droite. Alors une union, sur quoi? Sur quoi se réunit-on? Et il est évident qu'il ne peut y avoir d'union qu'autour de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le roi, avec les moyens que Jésus-Christ a pris lui-même pour vaincre le démon. Et ces moyens, le chapelet nous les enseigne. Il y aura la résurrection finale avec la victoire, mais pour cela, il faut passer par la passion, le deuxième des chapelets, deuxième série de mystères. Et pour nous préparer à la passion, il faut les mystères joyeux. Alors, le chapelet est une école de combattants de Dieu. Dans la première série de mystères, le premier chapelet, nous apprenons l'humilité et la vie intérieure. Pas seulement la vie cachée, mais la vie intérieure. Nous voyons l'ange qui vient rendre visite à la Très Sainte Vierge dans la pauvre toute petite ville, village de Nazareth. Nous voyons cette scène extraordinaire qui est le début du dernier âge du monde, mais qui se passe en secret, discrètement. Et puis, la visite de la Sainte Vierge à sa cousine Élisabeth, elle porte la bonne nouvelle, et c'est le salut qui commence à se répandre comme un feu qui va courir dans le monde entier. La naissance de Jésus à Nazareth, et vous avez remarqué, mes enfants, que Nazareth, c'est une pauvre petite ville, et puis notre Seigneur naît dans une grotte. Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. C'est évident. Dans les hôtelleries, il y a la télé, des gens qui fument, des gens qui lisent des journaux pas bien, il y a souvent des blasphèmes, des gros mots. Alors quand ils sont arrivés à Nazareth, Saint Joseph et la Sainte Vierge se sont regardés, et ils ont vu l'hôtel au lit, on dort. On y dort bien même. Et alors ils se sont dit, on va demander l'hospitalité à l'hôtel au lit, on dort. Et quand ils ont vu la porte du bar s'ouvrir, ils se sont dit, c'est pas une place pour nous, ça. Alors la Sainte Vierge a dit à Saint Joseph, t'inquiète pas, Joseph, t'inquiète pas. Et Joseph lui a dit, bah, écoute, Marie, je connais l'endroit, je suis de la région, il y a des grottes un peu plus loin, là nous serons bien. Et voilà, le bon Jésus avait fui le monde. Alors, il va se faire adorer par des bergers, des simples bergers. Plus tard, des rois mages viendront, mais un petit peu plus tard quand même. Hérode, bien sûr, ne sera pas là, le prince des prêtres ne seront pas là. Pourtant, les princes des prêtres ont donné la réponse, hein, à Hérode. Ils ont donné la réponse, le Messie est né, et il est à Bethléem, les Écritures nous l'annoncent. Mais pensez donc, ils ne se sont pas dérangés. Et notre Seigneur va conquérir le monde de cette manière. Et vous allez apprendre, mes enfants, dans la famille, à vivre dans la vie, de vie intérieure. Et la vie intérieure, c'est deux choses principalement. C'est l'humilité dans l'obéissance et c'est la contemplation dans la méditation, dans l'oraison. Et la plus facile de toutes les oraisons, c'est le chapelet. Vous méditez les mystères de la vie de Jésus. Il faut que je me dépêche parce que j'ai peur de traîner beaucoup. J'en suis à 19 minutes, 19 minutes. Mes enfants, j'espère que vous m'écoutez toujours. Alors, allons un petit peu plus vite. Et une fois que vous aurez été bien formés, que vos âmes auront été bien formées dans les mystères joyeux, dans la vie intérieure, alors vous pourrez, avec Jésus, porter votre croix. Et non seulement la supporter, mais la porter face aux ennemis. Il ne s'agit pas seulement de porter sa croix, de la supporter en faisant le dos rond, il s'agit aussi de la porter avec fierté. Vous avez été confirmés, j'espère bien tous, hein, c'est très important, vous avez été confirmés et l'évêque a fait la croix sur votre front pour que vous portiez la croix avec fierté et que la croix soit comme les cornes de Moïse, voyez, qu'elles illuminent devant vous et que ceux qui vous voient soient étonnés et découvre à travers vous l'œuvre de Jésus-Christ. Et alors quand nous aurons bien souffert avec Jésus-Christ, que nous aurons porté notre croix, alors ce sera le triomphe, le grand triomphe. Et nous montrons avec les saints et les anges, louer éternellement la Sainte Vierge au ciel et louer Jésus-Christ avec la Très Sainte Vierge au ciel. Alors, voilà, mes chers enfants, pour le mois du rosaire, le pape a demandé qu'on récite le chapelet tous les jours avec les litanies de la Sainte Vierge. Donc, voilà ce que vous pourrez faire très facilement en famille. Nous-mêmes, ici, au prieuré Notre-Dame du Christ-Roi, nous réciterons tous les jours le chapelet avec les litanies de la Sainte Vierge devant le Saint-Sacrement et même le Saint-Sacrement exposé, comme l'a demandé le pape Léon XIII. Que Dieu vous bénisse, que la Très Sainte Vierge vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.